Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no te ayuda a vivere, allora fate qualcos'altro.
Shiri e Shamanzayadam John Mercer, Bashka Bishay.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, Michel Armatz et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus.
Luguni Zhenwei Shige, Bunan Zhang Shenguo Guan Jintai, Najo Qing Wangli Shige.
Ha a költészet nem éltet, fordulj más felé.
Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanc, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, vous êtes autre chose.
Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten, la noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos.
Bonsoir ou bonjour, cette voix qu'on vient d'entendre, c'est celle d'Alejandra Pizarnik, poétesse argentine à qui on va consacrer 2 heures d'émission. Alors je vous ferai grâce de cet accent espagnol, ma jota défaillante va se retirer, maintenant on l'appellera Alejandra Pizarnik pour la commodité parce que nous ne sommes pas de bons hispanistes. Alors c'est une émission qui a été préparée essentiellement par Thérèse Bonetta et avec un très grand travail de recherche et de rencontre aussi, dont elle nous parlera peut-être, notamment avec tous ceux qui actuellement font un travail de réédition de cette poétesse assez peu connue, hein, qui a disparu, poétesse argentine, qui a disparu à l'âge de 32 ans.
36 ans.
36 ans, merci de me corriger. Et également, qui a un espèce de, on va dire, un petit événement éditorial, quoi, qui est resté méconnu pendant plusieurs décennies.
En fait, l'idée, c'est ce qui a Maurice Travail est parti de rencontres, comme souvent en poésie, en rencontre en particulier avec Isabella Ceccaglini, qui s'occupe des éditions Ypsilon et qui a fait ce pari d'éditer l'œuvre complète d'Alejandra Pizarnik. Elle a obtenu, grâce à cela, les moyens pour le faire jusque fin 2015. Et donc, en quelque sorte, j'ai suivi le travail d'édition de cette maison rue Sorbier à Ménilmontant et pu accompagner comme ça toute cette investigation.
Voilà, puis il y a aussi la rencontre que tu as eue avec Anna Bechou, qui a été une amie très proche de Pizarnik, hein, que tu as pu interviewer. Plusieurs entretiens aussi, donc tu en as parlé, avec Fernando Copello, qui a fait tout un travail de recherche un peu topographique sur les lieux où avait vécu Alejandra Pizarnik avec ses étudiants
du Mans. En fait, c'est très joli la démarche de Fernando Copello. Elle m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'il y a très très peu de choses biographiques sur Alejandra Pizarnik, alors qu'elle est très connue en Argentine. On connaît très peu sa vie. Lui est allé, a fait toute une enquête topographique avec ses étudiants à Buenos Aires sur les lieux sur les lieux où a vécu Alexandra Pijarnik, et à partir d'une photo qu'il avait repérée d'elle, une photo dans son appartement, avenue Montevideo.
Donc on va peut-être parler tout de suite de la vie d'Alexandra Pijarnik et de cette naissance. Donc elle est d'une famille, c'est une immigrée, hein, puisque ses parents viennent d'Ukraine. Ce sont des juifs ukrainiens qui s'exilent, je crois, en 1934, suite au pogrom contre les juifs. C'est une famille qui va être très marquée par la Shoah, par la suite, hein, puisque je crois que ne survivent, enfin en dehors des parents de Pijarnik qui sont venus à Buenos Aires s'installer, lui est, je crois, courtier en bijouterie, c'est ça,
oui.
Il fait du commerce de bijoux.
Oui.
C'est des gens relativement aisés, mais quand même, il y a derrière eux un passé tragique, puisque je crois qu'il ne restera après la guerre qu'un frère et une sœur, chacun d'un côté, soit du père, soit de la mère, après la Shoah, quoi. Donc, l'autre chose qui est très importante de dire aussi, c'est que c'est un exil des parents. Il y a une sœur aînée qui naît à l'arrivée, je crois, en 1934, hein, Myriam. Mais la chose importante à dire, c'est que toute la vie de Pijarnik apparaît comme une espèce d'exil intérieur, et d'abord un exil dans la langue, puisqu'elle ne parle au début que le yiddish. Ses parents ne parlent que le yiddish, ils ne lui parlent pas en espagnol, et elle-même, on lui interdit de fréquenter des goïms, comme on dit dans la tradition hébraïque, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de la religion juive et qui ne parlent pas le yiddish, et elle va donc moitié du temps à l'école yiddish et moitié du temps à l'école publique espagnole, où elle apprend avec difficulté cette langue. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette enfance? Ils habitent dans le quartier juif aussi, enfin
oui.
Dans un... Charo, au secours.
Avellaneda.
Avellaneda,
merci,
oui,
Charo.
Bien sûr. On est aussi avec une Argentine ici, que vous avez entendue souvent dans cette émission, Charo.
Mmh.
Et je profite en plus pour présenter mes autres camarades, Patrick Vendrin, qui est un habitué, Maïna Le Dantec et Aurélie Vallier, qui vient pour la première fois nous prêter sa voix. Merci à tous. Encore autre chose peut-être à dire sur l'enfance de...
Mais je crois que tu as bien résumé, effectivement, en venant de cette ville qui est Rivne, ils ont intégré l'Argentine dans la banlieue sud de Buenos Aires avec un membre de la famille, et puis en faisant tout un transit par la France, ils se sont arrêtés à Paris aussi avant d'arriver en Argentine.
Voilà, mais de ça, elle, en naissant, elle ne sait pas grand-chose. Elle a, par contre, une chose qu'on peut dire tout de suite, c'est que très très tôt, elle a des problèmes d'élocution.
Oui.
Ça, c'est intéressant. On reverra à travers un texte qui parle de la méfiance par rapport aux mots. Il y a à la fois une grande difficulté dans l'écriture, mais aussi dans l'élocution, puisque je crois qu'elle souffre. Elle ne peut pas dire les consonnes nasales, c'est-à-dire essentiellement, je crois, le nye, qui se prononce d'ailleurs différemment selon les langues. On va peut-être laisser maintenant écouter simplement les textes, tout de suite, des textes d'Alexandra.
Un des textes d'enfance.
Pijarnik, défiance.
Maman nous parlait d'une blanche forêt de Russie. Et nous faisions de petits bonhommes de neige et nous leur mettions de petits chapeaux que nous volions à votre arrière-grand-père. Je la regardais avec méfiance. Qu'est-ce que c'était la neige? Pourquoi faisait-on de petits bonhommes? Et avant tout, que signifie un arrière-grand-père?
Fillette au jardin. À Daniela Amann. Une clairière dans un jardin obscur, ou un petit espace de lumière entre des feuilles noires. C'est là que je suis, maîtresse de mes 4 ans, dame des oiseaux célestes et des oiseaux rouges. Au plus beau, je dis, je vais t'offrir à je ne sais qui. Comment sais-tu que je lui plairais? Dit-il. Je vais t'offrir, dis-je. Tu ne trouveras personne à qui offrir un oiseau, dit l'oiseau.
Origine. Il faut sauver le vent. Les oiseaux brûlent le vent dans les cheveux de la femme solitaire qui fait retour de la nature et tisse des tourments. Il faut sauver le vent.
Au réveil, m'est revenue une chanson juive que j'adorais à 8 ou 9 ans. Je la fredonnais, la chantais sans m'attacher aux paroles. Aujourd'hui, elles me sont revenues et j'ai compris que ce qui m'avait le plus touché, c'était ça. Où irais-je? Je frappe à toutes les portes et toutes les portes sont fermées. J'ai sursauté et je me suis demandé si ma souffrance ne provenait pas de quelque chose d'antérieur à mes parents. J'ai immédiatement pensé à l'hermétisme, que je ne connais pas, et à la Kabbale, que j'ignore tout autant. Tout ça est très bizarre, et je regrette plus que tout mon adolescence psychanalytique. La psychanalyse m'a rendue rationnelle et méfiante vis-à-vis des choses qui devraient me sembler naturelles, comme les miracles, les significations magiques. Toutes les portes sont fermées.
Rêve. Éclatera l'île du souvenir. La vie sera un acte de candeur. Prison. Pour les jours sans retour. Demain. Les monstres du navire détruiront la plage. Sur le verre du mystère. Demain. La lettre inconnue trouvera les mains de l'âme.
Fillette entre des fleurs de lys. Obscénité dans quelques courts instants du jour partagé. Nom de la nuit qui n'est qu'à moi. Quelque chose d'aussi modeste qu'une main ouvrit mon ardente mémoire. Un geste léger en pliant les doigts au moment de fermer la main en forme de lys. L'exécrable couleur de la fleur de lys me monta au cerveau avec tout le poids fatal de son triste et délicat parfum. Incité par la vision de cette main recueillie sur elle-même, avec des doigts comme cinq phallus, je parlais de la double mémoire. J'évoquais les fleurs de lys, derrière lesquelles, une fois, je me suis cachée, sauvage, minuscule, pour manger des fourmis et chasser des mouches de couleur. Le geste de la main donna une signification insolente à la petite figure du mémorial, celle cachée entre les fleurs de lys. Je me mis à étouffer entre des murs visqueux.
Origine. La lumière est trop grande pour mon enfance, mais qui me donnera la réponse qui n'a jamais servi? Un mot qui me protège du vent, une petite vérité où m'asseoir et à partir de laquelle me vivre. Une phrase seulement mienne que j'embrasse chaque nuit, où je me reconnaisse, où je m'existe. Mais non. Mon enfance ne comprend que le vent féroce qui m'exposa au froid lorsque des cloches mortes m'annoncèrent. Rien qu'une vieille mélodie, quelque chose avec des enfants d'or, des ailes de peau verte, de choux, de savon comme la mer qui grelotte dans mon sang, qui renouvelle ma fatigue d'autres âges. Seule la décision d'être Dieu même dans les larmes.
Vous écoutez le roman des poètes, l'émission Vagabonde de la BIP, qui est aujourd'hui consacrée à Alexandra Pizarnik. On a entendu, ça vous a peut-être étonné, cette musique très américaine dont le titre est Where Can I Go, mais en fait c'est la version américaine de cette fameuse chanson yiddish d'enfance qu'écoutait Alexandra Pizarnik. Et ce titre, Where Can I Go, dit beaucoup de choses de la vie de Pizarnik. Où puis-je aller? Elle redit tout le temps qu'elle frappe à des portes qui ne s'ouvrent jamais. C'est une sorte de leitmotiv. Donc on l'a laissée dans son enfance, hein, où elle, on a signalé qu'elle souffrait de problèmes d'élocution. Elle a quand même, je crois, du côté de la musique, une personne qui la marque, c'est sa professeure de piano, je crois, ou professeure de chant.
Oui. Il faudrait revenir sur quelque chose qui concerne Alexandra Pizarnik, c'est que son prénom d'origine n'était pas Alexandra. Ça, c'est vraiment un prénom d'écriture, d'écrivain.
Flora.
C'est Flora,
Flora,
son prénom d'origine.
Qui se traduit en yiddish par Blum, je crois.
Exactement.
Et qu'on a déformé en Bouma. On l'appelle Bouma, c'est la petite Bouma. Mm. Hein, et c'est un petit peu l'enfant difficile dans cette... je ne sais pas comment on dit pour... on ne dit pas une fratrie pour les sœurs, si on dit une fratrie.
Sororité.
La sororité,
ouais, c'est ça. La sororité.
On apprend tous les jours.
C'est important de mentionner ça parce que tout au long de son œuvre, on va retrouver des thématiques autour des fleurs et elle va aussi être très imprégnée de regards sur des tableaux où il y a des fleurs, et elle-même va gommer ce prénom.
Voilà, alors donc c'est une enfant qui pousse difficilement, puisque non seulement bon, elle a ses problèmes d'élocution, elle a aussi très tôt de l'acné, et elle est tout le temps, enfin on sent que c'est un corps douloureux. Entre 10 et 13 ans, elle commence à avoir de l'acné qui est très, qui lui donne conscience, elle a des crises d'asthme, elle a conscience, elle dit qu'elle se sent très laide, et elle va très très tôt d'ailleurs commencer à fumer, je crois vers 14 ans, elle commence à...
Oui.
À fumer, à boire. Elle a
des problèmes aussi de boulimie, c'est-à-dire que vraiment, ce corps l'embarrasse. Elle se décrit comme étant petite, grosse, laide. Si on doit décrire physiquement Alexandra Pijarnik, elle a des yeux, des grands yeux verts. Elle est myope et son visage est réellement poupin. Elle est assez poupine, comme ça.
Oui, voilà. On voit des photos sur certains livres, on voit des photos. Elle a quand même un regard qui est très étonnant. Un regard à la fois un mélange d'enfance et aussi de quelqu'un qui allait très très loin dans la douleur. À cause de cette boulimie, elle va commencer beaucoup plus tôt, on dirait, que ce qu'on pratique en général à l'adolescence, à picoler, utiliser des amphétamines.
Mais hein, c'est-à-dire
contre
que
l'asthme.
Son père... va effectivement accompagner, c'est un père aimant, c'est un père affectueux qui va accompagner cette fille et d'emblée lui payer des honoraires pour voir un psychanalyste. Elle va voir un psychanalyste très tôt.
Et ça va commencer à quel âge, ça, la psychanalyse
Elle commence la psychanalyse avec Léon Ostrov, elle a 16-17 ans.
Elle a 16-17 ans. Bon, on est un petit peu en avance, on va dire que simplement dans cette préadolescence, elle commence à lire beaucoup, elle lit notamment. Elle lit tout, quoi. Elle lit d'abord la littérature, l'âge d'or de la littérature espagnole, en tout cas ce qu'elle considère comme ça, notamment Cervantes, le roman picaresque. Et elle va également s'intéresser beaucoup à Sartre, à Faulkner. Elle va dévorer à des
livres.
Oui,
et bien en avant, on peut retrouver aussi des influences franco-anglaises, puisque dans son enfance, le livre de référence a été Alice au Pays des Merveilles. Donc, qu'on retrouvera dans certains de ses textes. Hein. Elle va décliner cette... Voilà, tout ce qu'on peut décliner autour des personnages dans Alice au Pays des Merveilles et tous ces animaux fantastiques qui vont imprégner son œuvre.
Voilà, donc peut-être pour résumer, on va dire qu'il n'existait jusqu'à la tentative d'édition d'Epsilon qu'un journal publié, un journal intime publié chez José Corti, qu'on trouve toujours et qui est passionnant à lire, où elle parle de ça, de cette opposition, enfin de cette grande difficulté avec ses parents qui pourtant la protègent beaucoup, et son père est un père très aimant.
Et pourtant dans le journal, effectivement, est notée sans arrêt cette enfance détestable. Enfin, en tout cas, c'est ce dont elle se remémore. Comme tel, qu'est-ce qui fait qu'on perd son enfance? Il y a bien un jour où je jouais, oubliais, faisais ce que je voulais et me permettais tout. Je ne veux pas revenir sur la répression et les interdits familiaux, car ils ont toujours existé. Il me faut répéter pour la énième fois que mes parents se sont escrimés à me détruire et ils y sont parvenus.
Thank you.
qu'on me laisse avec ma voix nouvelle, inconnue. Non, ne me laissez pas. Obscure et triste, l'enfance s'en est allée, et la grâce et la dissipation des dons. À présent, les merveilles émanent du nouveau centre, infortune dans le cœur d'un poème à personne destinée. Je parle avec la voix qui est derrière la voix, et avec la magie des sons du langage de la chanteuse de complainte. À des yeux bleus qui donnaient un sens à mes souffrances dans les nuits d'été de mon enfance. À mes mots qui avançaient dressés comme le coursier du chevalier de Bamberg. À l'éclat d'un regard qui parait mon vocabulaire comme un splendide palais de papier. La lumière m'enivre. Je ne nomme que la lumière, je veux la voir. Je veux voir au lieu de nommer. Je ne sais où m'arrêter et habiter. Le langage est vide et aucun objet ne semble avoir été touché par des mains humaines. Eux sont tous les autres et moi, je suis moi. Monde dépeuplé, mots aux reflets qui seuls sont seuls à se dire. Ils me tuent. Je meurs dans des poèmes morts qui ne coulent pas comme moi, qui sont de pierre comme moi, qui roulent et ne roulent pas. Un naufrage linguistique, une manière d'inscrire à feu et à sang ce qui s'en va librement et ne pourrait revenir. Je dis cela car plus jamais je ne saurai adresser à quelqu'un mes poèmes. Vie, ma vie, qu'as-tu fait de ma vie ?
Tragédie. Avec la rumeur des yeux des poupées, agités par le vent si fort qu'il les faisait s'ouvrir et se fermer un peu, j'étais dans le petit jardin triangulaire et je prenais le thé avec mes poupées et la mort. Et qui est cette dame vêtue de bleu, au visage bleu, au nez bleu, aux lèvres bleues, aux dents bleues, aux ongles bleus et aux seins bleus, aux mamelons dorés ? C'est mon professeur de chant. Et qui est cette dame en velours rouge qui a une tête de pied ? Émet des particules de son, appuie sur ses doigts, qui descendent et on entend des sons, les mêmes sons. C'est mon professeur de piano, et je suis sûre que sous ses velours rouges, elle n'a rien. Elle est nue, avec sa tête de pied, et c'est ainsi qu'elle doit se promener le dimanche sur un grand tricycle rouge, à la selle de velours rouge, en serrant la selle avec les jambes, toujours plus serrées, comme des pinces, jusqu'à ce que le tricycle s'introduise en elle, et qu'on ne le voit jamais plus.
11 novembre, samedi. Fugué de chez moi en 1955. Maman est venue me chercher chez Arturo Quadrado. Je l'ai imaginée angoissée, alors que je traversais les pires moments et que j'étais dans un état épouvantable. Je ne sais pas si elle a dormi durant mes nuits d'absence. A-t-elle pensé que j'étais partie pour toujours ? Ou bien savait-elle que je n'étais pas sérieuse ? Pourquoi suis-je si sûre de son angoisse ? Ne s'est-elle pas plutôt sentie coupable ? Non, elle ne s'est jamais sentie coupable à mon sujet. Et tout ce que j'ai fait tout au long de ma vie n'a fait que lui démontrer à elle, la sourde, l'aveugle, son énorme culpabilité. Peut-être n'est-ce pas elle que j'ai voulu convaincre, mais plutôt moi. Peut-être ai-je besoin de coupable pour ne pas mourir absurdement. Pour ne pas accepter la réalité, une vérité nue. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de force maligne, ni de monstre qui s'acharne à te persécuter et à te faire du mal. Il n'y a qu'une chose, rien. Rien, rien. Est-ce que tu comprends cela ? J'ai presque pleuré en imaginant son visage, plein de larmes à cause de ma fuite. Ma seconde fugue a été mon départ en France. Cette fois-là, elle n'a pas pu prendre le train à 6h du matin et venir me chercher chez Arturo Quadrado. Peut-être mon triomphe d'esclave serait-il qu'elle vienne me chercher à Paris. Si elle le faisait, je crois que je sombrerais dans une telle idiotie que j'en perdrais même la parole. Je m'imagine à 40 ans sur une place, avec elle, moi en train de jouer comme les idiots, avec une fleur coupée ou un caillou, et elle en train de me crier que je vais me salir, et que je vais lui donner plus de travail que je ne lui en donne déjà.
l'obscurité des eaux. J'écoute résonner l'eau qui tombe dans mon rêve. Les paroles tombent comme l'eau je tombe. Je dessine dans mes yeux la forme de mes yeux. Je nage dans mes eaux. Je me dis mes silences. Toute la nuit j'attends que mon langage me configure. Et je pense au vent qui vient à moi, perdure en moi. Toute la nuit j'ai marché sous la pluie inconnue. À moi ils me donnèrent un silence plein de formes et de visions. Tu dis, et tu cours déchiré comme l'unique oiseau dans le vent. Vous écoutez le roman des poètes, l'émission Vagabonde de la BIP, et nous parlons d'Alexandra Pizarnik, poétesse argentine, qu'on a laissée dans son adolescence, ou du moins dans sa préadolescence, et là on arrive à une année qui est très importante dans sa vie, qui est la 18e année, où elle va d'abord entamer une première psychanalyse avec Léon Ostrov, qui est un psychanalyste freudien, et elle va rentrer en fac de philo et de lettres à Buenos Aires. Et c'est là qu'elle va, d'une certaine manière, commencer son parcours littéraire avec d'autres, quoi, entrer en relation avec d'autres.
En fait, là, on entre complètement dans le cycle des études inachevées, on va dire, d'Alexandra Pizarnik, puisqu'elle commence effectivement par une année d'études de journaliste, en 1954, qu'elle va abandonner. Et elle va couvrir un festival ciné de Mar de la Plata. Et par la suite, entre 55 et 57, elle poursuit des études de philosophie à la fac de philo et de lettres. Elle est alors sous l'élan et la protection d'un professeur de littérature moderne qui s'appelle Juan Jacobo Bajarlia, et une sorte de mentor qui va lui proposer une collaboration pour la traduction de textes tels que Paul Éluard, André Breton, avec qui elle va correspondre et qui va l'initier aussi aux lectures de James Joyce, Proust, Gide, Claudel, Kierkegaard, son attraction va vers le jour. Oui.
Au surréaliste, et je crois qu'elle traduit l'Immaculée Conception, qui est ce texte écrit à quatre mains avec Breton et Éluard, et même qu'elle correspond avec Breton à partir de cette. Enfin, je crois avoir lu ça.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est important, et elle va rentrer aussi dans l'univers du surréalisme. Enfin, en tout cas, elle va être très très impressionnée par ça. Elle va en garder des marques très profondes dans son écriture.
C'est pas uniquement par les textes qu'elle va rentrer dans l'univers du surréalisme. Elle va aussi découvrir l'atelier de Juan Battle Planas, qui reproduit des scènes spectrales. Et ce passage fugace va être
qui est un peintre.
Voilà, c'est un passage
proche d'enfin dans l'esprit des surréalistes aussi, de Miro, de Tanguy. Enfin, ils s'en réclament en tout cas.
Oui, et puis de Max Ernst. Et de cet apprentissage, on va pouvoir retenir toute l'influence de cette autre fenêtre, de ces fenêtres, parce que si les portes vont lui sembler fermées, les fenêtres des tableaux vont commencer à s'ouvrir pour elle. Et Juan Battle Planas dit, cette petite, et il faut lui acheter du papier et qu'elle écrive sur les rêves. Elle confond pinceau et crayon. Bref. Donc elle impose progressivement aussi, en même temps, sa personnalité dans les cercles littéraires.
Et donc elle écrit déjà, ça c'est important, on ne l'a pas dit, mais elle a commencé à écrire beaucoup de poésie. Hein, et même elle va publier très tôt, hein, à 19 ans, elle va publier un premier recueil de poèmes, ce qui est assez exceptionnel, enfin il me semble. Toujours pour la question du rapport entre le crayon et le pinceau, alors je ne sais pas si c'est une habitude qu'elle a déjà prise ou c'est quelque chose qu'elle prend à cette époque, mais tout le monde, enfin tous ceux qui l'ont côtoyée, parlent de sa façon de travailler les textes qui ressemble au cut-off, quoi, c'est-à-dire qu'elle prend des bouts de texte, elle les découpe au ciseau, elle les colle sur des tableaux, elle écrit sur des tableaux, elle suspend des morceaux de texte sur des fils à linge avec des pinces, et elle n'arrête pas de faire du montage, et toute l'histoire de son écriture est un peu cette espèce de retrituration perpétuelle.
Oui, c'est exact, parce que c'est alors ce premier ouvrage s'appelle La Tira Massarena, il est publié donc en 55, et dès la page de garde on a à la fois le titre avec son prénom, Flora Alexandra Pijarnik, et aussi un dessin la représentant comme liseuse, un dessin de Luis Seoné.
La Tira Massarena, hein, ça veut dire, Charo?
La Tira Massarena.
Et ça veut dire, comment on pourrait traduire ça?
La terre la plus lointaine.
Voilà, qui est donc le premier recueil d'Alexandra Pizarnik.
Les poupées éventrées par mes anciennes mains de poupées. La désillusion de ne trouver que pure étoupe, pure steppe, ta mémoire. Le père qui dut être Tiresias flotte dans la rivière. Mais toi, pourquoi as-tu permis qu'on t'assassine en écoutant ces récits de peupliers enneigés? Je voulais que mes doigts de poupée pénètrent dans les touches. Je ne voulais pas effleurer les claviers comme une araignée. Je voulais m'enfoncer, me clouer, me fixer, me pétrifier. Je voulais entrer dans le clavier pour entrer à l'intérieur de la musique pour avoir une patrie. Mais la musique bougeait, se pressait. Quand un refrain reprenait, alors seulement s'animait en moi l'espoir que quelque chose comme une gare s'établirait. Je veux dire, un point de départ ferme et sûr. Un lieu depuis lequel partir, depuis le lieu, vers le lieu, en union et fusion avec le lieu. Mais le refrain était trop bref, de sorte que je ne pouvais pas fonder une gare puisque je n'avais qu'un train un peu sorti des rails, qui s'est contorsionné et s'est distordé. Alors j'abandonnais la musique et ses trahisons, parce que la musique était toujours plus haut ou plus bas, mais non au centre, dans le lieu de la rencontre et de la fusion. Toi, qui fus ma seule patrie, où te chercher? Peut-être dans ce poème que j'écris peu à peu.
Thank you. attention avec les mots, dit-elle. Ils sont aiguisés, ils te couperont la langue. Attention, ils t'enfonceront dans la prison, attention. Ne pas naître aux mots. Allonge-toi dans les sables noirs et que la mer t'enterre et que les corbeaux se suicident dans tes yeux fermés. Fais attention à toi, ne tente pas les anges des voyelles, n'attire pas des phrases, des poèmes, des vers. Tu n'as rien à dire, rien à défendre. Rêve, rêve que tu n'es pas ici, que tu es déjà parti, que tu es déjà parti, que tout est terminé.
Exercice sur des thèmes d'enfance et de mort. Regarde par la fenêtre et dis-moi ce qu'il y a.
Je ne peux pas y croire.
Ce n'est pas une question de croire, mais de voir.
Il y a un photographe, du genre de ceux qui font sortir le petit oiseau. Il photographie son propre appareil photo.
Et à la fenêtre d'en face?
Ce qu'il y a toujours. Le pantalon bouffant, le corsage sur une chaise, et une ombre qui va et vient. C'est l'ombre de la dactylographe.
Et le soleil?
Il n'y a pas de soleil.
Alors quoi?
Rien. Tout est opaque.
Et les miroirs qui brillaient si doucement? Et c'est le froid de la nuit, le noir.
Ma maîtresse est plus grande qu'une pendule. Ma maîtresse est obscène parce qu'elle se touche l'heure.
On me dit que j'ai à vivre une vie longue et très brillante. Mais moi je sais que je n'ai que mes propres mots qui me reviennent.
Tu avais tant de projets.
Mais il est tard pour faire un masque.
Tant de projets, l'éloge, du froid, de l'ombre, de la dissolution, dire avec beauté que tous les chemins s'ouvrent à la noire liquéfaction.
C'est que je croyais qu'il faut dire souvent, même si on le sait, ce qui peut nous servir d'avertissement.
Tu as dit avertissement ?
Rire.
Voilà, sur cette musique klezmer un petit peu tirée du côté du funk par David Krakauer, on continue à parcourir la vie d'Alexandra Pizarnik. Dans le dernier micro, on parlait de ses premières acquaintances avec le milieu littéraire qui vont se développer. Enfin, elle a à peine 19 ans, hein, 19-20 ans. Et donc, elle va rencontrer énormément de peintres et d'auteurs aussi, d'écrivains argentins. Elle se lie avec Olga Orozco, Antonio Riqueni, Enrique Molina, je fais un petit effort de prononciation auquel que j'abandonnerai très vite. Et elle va poursuivre, d'ailleurs c'est des amitiés qu'elle va garder toute sa vie.
Avec Olga Orozco, et elle fréquente un groupe d'artistes que l'on appelle le groupe El Taller. Baralia est considéré comme le guide accompagnateur vers sa première identité d'écrivain.
Voilà, Baralia, on rappelle, c'est ce peintre Jean-Jacob Baralia qui l'a un peu parrainé.
Ce n'est pas le peintre. Baralia, c'est.
Baralia,
c'est son professeur de littérature qui l'a mis en contact avec André Breton et puis Paul Éluard.
Autant pour moi.
Mais en parallèle, elle commence aussi à être habitée par d'autres inquiétudes parce qu'elle bégaye de plus en plus. Elle ingère des amphétamines par obsession de son poids, de l'acné. Elle prend aussi des analgésiques pour ses crises d'asthme. Le livre qui porte en épigraphe une citation de Rimbaud qui dit « Ah, l'infini égoïsme de l'adolescence », elle porte son adolescence vraiment comme un poids lourd.
Voilà, et on peut dire aussi que pendant toute cette période et jusqu'à la fin de sa vie, de toute façon, la famille est derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un soutien financier.
Oui, il n'y a pas de souci matériel, a priori. Mais... Donc, elle va néanmoins publier en 1956 son second recueil, « La Ultima Innocentia », qui est dédié à son psychanalyste Léon Ostroff.
C'est un titre d'ailleurs qui est piqué à Rimbaud.
Oui, il est extrait d'une saison en enfer. Voilà. Lors de son enquête topographique, Fernando Coppello va rencontrer la fille de Léon Ostroff, qui va lui faire visiter le lieu où elle est en analyse. Et l'importance de ces repères dans l'espace. Là, on retrouve encore ce que Alexandra Pijarnik entretenait de particulier avec l'espace. Hein. Au départ, il y a une relation avec la peinture, il y a l'espace de la toile, le lieu privilégié qui est aussi l'espace de la page, le tableau noir qui est aussi un espace d'écriture. Bref, l'espace de la réalité est pour elle beaucoup plus présent dans ces espaces abstraits que dans des territoires tels que l'espace politique. On n'entend absolument pas parler dans les ouvrages d'Alexandra Pijarnik de la réalité politique de l'Argentine dans les années 50. Alors que ces groupes travaillaient, ce groupe El Taller travaillait aussi sur l'engagement littéraire et politique.
Et puis peut-être une chose qu'on devrait signaler aussi qui est importante, c'est son attirance pour le français, hein, qui est une langue qu'elle a fréquentée très jeune. Et c'est dans cette même époque aussi qu'elle va commencer à faire des traductions, puisqu'on a parlé de la traduction de l'Immaculée Conception. Le français prend une place très importante puisqu'elle va finir même par venir, enfin j'anticipe un peu sur l'histoire, à venir en France.
Oui, dans son journal, puisqu'on a de son journal traduit en français, toute la période qui recouvre les années 59 jusqu'à 72, dans son journal, on voit toutes les tergiversations qui se mettent en place pour émigrer, enfin le désir d'ailleurs, elle prépare son voyage à Paris, et en mars, elle partira à bord d'un cargo en direction de la France.
Tant et si bien que j'ai rêvé de capitaine et de cercueil aux couleurs délicieuses et que maintenant j'ai peur à cause de toutes ces choses que je conserve. Non, ce n'est pas un coffre de pirate. Non, ce n'est pas un trésor bien enterré. Ce sont beaucoup de choses en mouvement, beaucoup de figurines bleues et or qui gesticulent et dansent. Mais pour parler, elles ne parlent pas. Et puis, il y a l'espace noir. Laisse-toi tomber, seuil de la plus haute innocence ou peut-être seulement de la folie. Je comprends ma peur à l'idée d'une rébellion des figurines bleues et or. Âme parcellée, âme partagée, j'ai tant et tant erré pour forger des unions avec l'enfant peint en tant qu'objet à contempler et pourtant... Après avoir analysé les couleurs et les formes, voilà que je me suis trouvé en train de faire l'amour avec un garçon bien vivant, à l'instant même où celui du tableau se mettait nu et me prenait derrière mes paupières fermées. Il sourit, et je suis une minuscule marionnette rose avec un parapluie bleu ciel, j'entre dans son sourire, je construis ma maisonnette sur sa langue, j'habite dans la paume de sa main, il renferme ses doigts, une poussière dorée, un peu de sang. Adieu, oh, adieu. Comme une voix non loin de la nuit brûle le feu le plus exact. sans peau ni os, les animaux vont et viennent dans le bois réduit en cendres. Un jour, le chant d'un seul oiseau t'avait fait voisiner avec la chaleur la plus vive. Mers et diadèmes, mers et serpents, je t'en prie, regarde, comme le petit crâne de chien suspendu au plafond bleu se balance entouré de feuilles mortes qui tremblent. Lézardes et trous dans ma personne réchappés d'un incendie. Écrire, c'est chercher dans le tumulte débrûlé l'os du bras qui correspond à l'os de la jambe. Mélange pitoyable. Je restaure, je reconstruis, je vais ainsi environné de mort. Et cela sans grâce, sans auréole, sans répit. Et cette voix, cette élégie à une cause première, un cri, un souffle, une respiration parmi des dieux. Je raconte ma veille. Et toi, que peux-tu? Tu sors de ton repère et ne comprends rien. Tu y reviens et comprendre ou non n'a plus d'importance. Tu ressors et ne comprends pas. On ne peut respirer nulle part et tu parles de l'haleine des dieux. Ne me parle pas du soleil car je mourrai. Emporte-moi comme une petite princesse aveugle, comme l'automne lorsqu'il s'installe lentement et soigneusement dans un jardin. Tu viendras avec moi avec ta voix à peine teintée d'un accent qui me fera évoquer une porte ouverte, avec l'ombre d'un oiseau au joli nom, avec ce que cette ombre laisse dans le souvenir, avec ce qui demeure quand on disperse les cendres d'une jeune morte, avec les traits qui persistent sur la feuille, une fois effacé un dessin qui représentait une maison, un arbre, le soleil et un animal.
Rapports sociaux. A se caressait la main droite avec la main gauche, ce qui l'obligea à les regarder et à découvrir qu'elle était en train de se réduire. À nouveau en possession d'un corps minuscule, elle courut à la petite porte. À nouveau, elle la trouva fermée et la clé, comme auparavant, sur la table. En pensant à Nietzsche et au temps circulaire, elle glissa et s'enfonça dans l'eau salée. Elle crut être tombée dans la mer. Elle sut très vite qu'elle se trouvait dans la lagune de la dissonance. Elle se mit à nager en quête d'une plage. Elle dit « Tel sera mon châtiment, me noyer dans mes propres larmes. Pourquoi ai-je pleuré? J'ai tant cherché à lire dans mes ruisseaux de larmes, se souvint-elle. »
Un jardín. Pido el silencio. Mi historia es larga, triste como la cabellera de Ofelia. Es un jardín dibujado en mi cuaderno. Madrugada. Instante desgarrado en que la luz es tentación y promesa porque algo ha muerto. La noche. Solo quería ver el jardín. soy mi propio espectro. No hay que jugar al espectro porque se llega a hacerlo. ¿Sos real? La imagen de un corazón que encierra la imagen de un jardín por el que voy llorando. Il joue la pièce en étranger. Siento un mundo llorar como lengua extranjera. Das Gassen verkehrt Wesen vor. Another calling. My own words coming back. Je demande le silence. Mon histoire est longue et triste comme la chevelure d'Ophélie. C'est un jardin dessiné dans mon cahier. Aube. Instant déchiré où la lumière est tentation et promesse, car quelque chose est mort. La nuit. Je voulais seulement voir le jardin. Je suis mon propre spectre. Il ne faut pas jouer au spectre, car on en vient à l'être. Es-tu réel? L'image d'un cœur qui renferme l'image d'un jardin par où je vais pleurant. Il joue la pièce en étranger. Siento un mundo llorar con lengua extranjera. Das Gassen verkehrt Wesen fort. Another calling. My own words coming back.
Pourquoi il s'appelle Dominique?
Et pourquoi il ne s'appellerait pas Dominique?
Il y a d'autres noms. Il suffit de regarder dans le calendrier.
Voyons. Sainte Abstinence, Sainte Flanelle, Saint Poivre, Saint Exécutif, Sainte Nique. Tu n'aimes pas Sainte Nique?
Elle prend son phallus d'or et émet un coup de sifflet. Litvin rit à petits éclats.
Elle sait déjà rire.
Et niquer, comme son petit rire l'indique?
Oui, monsieur, elle rit et elle nique déjà.
Quant au fait qu'elle nique, il s'agit pour l'heure d'une hypothèse de travail. Mais si c'était vrai, avec qui niquerait ma poupée?
Avec un mariage.
Comment?
On entend des râles, suivis d'un long gémissement, puis de pleurs animaux.
Va voir ce que font les déchets.
Car sort. Il revient avec un visage de masque.
La catin a clamsé.
Et macho?
Il pleure.
Alors il veut vivre. Donne-moi le dictionnaire de chevalier.
Car sort et revient avec le dictionnaire.
Je veux savoir ce qu'il dit de la fenêtre.
Elle cherche dans le dictionnaire.
L'ouverture pratiquée dans les parois des bâtiments pour qu'entre la lumière, l'air, etc. Qui ou que peut bien cacher le « etc. » Peu importe, puisque la phrase « pour qu'entre la lumière » me fait l'effet d'une offense personnelle. Je crois que l'hippopotame me convient davantage que la fenêtre. Voyons, amphibien pachyderme appelé vulgairement cheval marin, qui vit dans les fleuves et hennit comme le cheval. Mais le mieux, ce sont les mots qui suivent le pauvre hippopotame. Hipposandale, hippotomie, hippotoxote, hirsutisme, hirticode, hirtipède, irudiné, hispidité. Hispidité, on dirait une dispute stupide entre hispanique et pidite.
C'est qui les pidites?
Comment je pourrais le savoir puisque je viens de les inventer?
Je ne comprends pas pourquoi tu es passé de la fenêtre à l'hippopotame.
Par une analogie qui se fonde dans des lois secrètes.
Elle t'a dérangé la définition de fenêtre, pas vrai?
Je hais les nuages quand ils se combinent en de belles formes. Comme c'est étrange de sentir la lumière sur ma figure. Ça me plaît, mais ce serait comme un erratum trop voyant si la lumière et moi faisions alliance. Le soleil comme un grand animal trop jaune. C'est une chance que personne ne m'aide. Il n'y a rien de plus dangereux quand on a besoin d'aide que de la recevoir. Que t'arrive-t-il?
J'ai froid. J'ai tort.
Va chercher Macho.
Car sort et revient.
Il ne veut pas venir.
Il fait quelque chose?
De la main droite, il remorque le tricycle de Futérine, tandis que de la main gauche, il conduit le sien.
C'est comme ça qu'il pense la ressusciter?
Chacun ressuscite comme il peut.
« Ainsi s'achève cette première heure d'émission du Roman des Poètes, l'émission Vagabonde de la BIP, consacrée cette fois à Alexandra Pizarnik. Cette émission a été préparée par Thérèse Bonetta, avec moi-même. Et je remercie tous les camarades qui sont autour de la table. Aurélie Vallier, Maïna Le Dantec, Charo Beltran, Patrick Vendrin, et également qui n'étaient pas en direct à l'émission mais qui ont enregistré auparavant ce petit texte sur les perturbés qu'on vient d'entendre en finale, Mathis Ascola et Rebecca Pierrot. Merci aussi aux musiciens à qui nous avons emprunté leur musique. J'ai nommé Bruno Girard, Léo Fould et Steve Lawrence pour leur version très américaine de Where Can I Go, Jean-Sébastien Bach pour Sacha Cohen, magnifique, Anne Maguet, ainsi que David Krakauer et Nana Vasconcelos pour ses extraits du Berimbau. Merci également à Arnaud Rofast qui est à la technique, ce qui n'était pas une chose facile aujourd'hui. Et puis vous pouvez bien sûr réécouter cette émission autant de fois que vous le voudrez sur le site www.michelarbatz.com, et vous pouvez évidemment aussi la podcaster sur, je pense, le site de Radio Campus Montpellier. Également, vous l'entendrez sur Radio Aviva et sur Radio Pays d'Hérault où elle est diffusée. Et enfin également, de temps en temps, sur Radio Aligre en région parisienne. Merci d'inviter, si ça vous dit, la BIP dans tous vos lieux de paresse, de travail, d'amour et de rêverie. À bientôt.